Mundus gaudebit vos autem contristabimini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mundus gaudebit vos autem contristabimini. Le monde sera dans la joie et vous dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. L'évangile de ce jour est une partie du long discours, après la scène, qu'eut notre Seigneur avec ses disciples, la veille de sa passion, la veille de sa crucifixion. Il s'efforce ici d'adoucir le chagrin qu'ils éprouvent à la pensée de son absence prochaine et de sa mort. Pour les consoler, il emploie surtout deux arguments. Tout d'abord, leur tristesse ne sera pas de longue durée, et ensuite, cette même tristesse, qui sera courte, leur procurera une joie immense et inadmissible, qui ne peut se perdre. Ces mêmes paroles de consolation nous sont aussi adressées, et nous en avons bien besoin, alors que nous nous efforçons d'être fidèles à la loi de Dieu, une tentation pourrait nous saisir. Lorsque nous constatons la vie facile des méchants dans l'opulence et dans la joie, alors que nous-mêmes, nous sentons sur nos épaules bien des difficultés et le poids bien lourd de la croix parfois. Notre Seigneur a en effet voulu partager ainsi les biens de la vie présente, au bon, les croix et les pleurs, au mondain, que l'Écriture appelle les enfants du siècle, les jouissances et les biens matériels. Cependant, que sont ces joies tant recherchées par ces âmes qui vivent loin de Dieu ? Manger, boire, s'enivrer, suivre ses moindres caprices, se livrer à la débauche, soigner sa petite personne, dormir le jour et s'amuser la nuit, vouer un culte sans borne à son propre égoïsme. Telles sont les joies après lesquelles courent, avec tant d'avidité, ceux pour qui Dieu n'est pas au principe de leur vie. Et à y regarder de près, ces joies en méritent-elles le nom ? Car elles ne sont ni perpétuelles, ni ne durent bien longtemps. Elles ne sont que des ombres fuyantes, comme la vie l'est elle-même. Comme l'a écrit l'apôtre Saint Jacques, notre vie est une vapeur qui paraît un instant et qui se dissipe bientôt. Or, plus une fumée s'élève dans les airs, plus elle gagne en hauteur, plus aussi elle se dilate, plus aussi elle s'atténue, si bien qu'elle finit par disparaître tout à fait, et il n'en reste plus aucune trace. Telles sont nos vies. Un des amis de Job disait à celui-ci, « Savez-vous ce qui s'est fait de tout temps, depuis que l'homme a été mis sur la terre ? C'est que la prospérité des impies ne fait que commencer lorsqu'elle finit déjà. Quand son orgueil se serait élevé jusqu'au ciel, quand sa tête toucherait les nues, il périra à la fin. Il sera jeté comme un fumier. Et ceux qui l'avaient vu diront, « Où est-il ? » On ne le trouvera plus, parce qu'il s'évanouira comme un songe, il disparaîtra comme un fantôme nocturne. Voici les paroles de l'ami de Job, qui sont très vraies. La vie est brève, et les jouissances de cette terre le sont aussi avec elle. Mais ce n'est pas tout. La joie de cette terre n'est pas non plus continue. Elle abandonne et trompe ceux qui la poursuivent, car à qui la fortune sourit-elle toujours ? Qui n'a jamais eu de revers ? Tôt ou tard, les amertumes de la vie viennent affliger les biens, les bons comme les méchants, que ce soit par des peines physiques, de santé, ou dans nos biens extérieurs, les revers de fortune, les soucis d'argent, ou encore par des peines morales. Les inimitiés, les trahisons, la perte de proches, le poids de ses fautes et de ses péchés aussi. Les afflictions ne sont jamais loin des plaisirs, et nous en faisons tous l'expérience. Et puis, qui décrira les fruits néfastes de ces jouissances ? La volupté détruit l'intelligence et le jugement. Les païens s'en étaient déjà rendus compte. D'où les vers d'un poète latin. Rien de plus funeste que la volupté, nourricière de tous les vices. Elle enlève le jugement et l'intelligence, fait obstacle aux vertus, corrompt les cœurs, affaiblit les corps, émousse les sens. Amère dans ses fruits, elle est pour l'homme la cause de bien des maux. Il faut ajouter à cela la morsure de la conscience. Et bien que le méchant ne craigne pas le jugement de Dieu, ni les supplices éternels de l'enfer, qu'il subira s'il ne se convertit assurément. Cependant, la mort est presque constamment devant ses yeux. C'est ainsi que le cardinal Pie parle de ceux qui gémissent fatigués de leur captivité volontaire loin du temple, ennuyés de leurs fêtes bruyantes dont leur âme ne conserve rien, rien que des remords et du dégoût. Et de même que les saints désirent la mort tout en se résignant à vivre, au contraire, les méchants, enflammés d'amour pour cette vie, tremblent devant la mort comme la fin de leurs délices. Mundus gaudebit. Oui, mais quelle joie! De quelle joie! Vos autem contrista vimini. Et vous serez dans la tristesse. Quelle est donc cette tristesse dont parle notre Seigneur? Notre Seigneur veut parler des fardeaux que nous avons tous à porter, fardeaux des préceptes divins, que nous devons observer en crucifiant notre chair, selon l'expression de saint Paul, avec ses vices et ses convoitises, en contenant nos passions sous l'emprise de la raison, en comprimant la volubilité de notre langue, la licence de nos yeux et de nos autres sens, en nous montrant bons, aimables, bienveillants envers tous, fussent-ils méchants ou hostiles. C'est l'épître d'aujourd'hui, les paroles de saint Pierre. Ces fardeaux que certains trouvent lourds et écrasants, notre Seigneur les appelle un joug doux et un fardeau léger. Mais si c'est un joug, comment peut-il être doux? Et si c'est un fardeau, comment peut-il être léger? Saint Paul répond: le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie produit un poids d'éternelle gloire. Un poids d'éternelle gloire. Saint Paul nous pousse à regarder le ciel. Voilà pourquoi ce joug est doux et ce fardeau est léger. Par la belle vertu d'espérance qui nous pousse à contempler le ciel, à vivre au ciel dès ici-bas, par la pensée. Ces tristesses que nous devons porter en ce monde auront leur récompense dans l'autre. Assurément, très certainement. Il nous faut souvent penser à cette joie du ciel. Lorsque nous peinons dans les épreuves, si nous sommes fidèles à porter notre croix chaque jour, Dieu nous unira à lui et nous rendra participants à son propre bonheur, qui dépasse de très très loin tout ce que nous pouvons imaginer. Nous contemplerons alors immédiatement l'essence divine, sans l'intermédiaire d'aucune créature, ni même d'aucune idée. Notre intelligence sera directement remplie de Dieu. Nous le verrons tel qu'il est dans son essence infinie, dans sa vie intime, commune aux trois personnes, tel qu'il se voit lui-même. Nous l'aimerons aussi comme il s'aime. Nous vivrons éternellement avec lui, de lui. Nous verrons l'infinie fécondité de la nature divine s'épanouissant en trois personnes, l'éternelle génération du Verbe, splendeur du Père et figure de sa substance, et l'ineffable spiration du Saint-Esprit, terme de l'amour commun du Père et du Fils, qui les unit éternellement dans la plus absolue diffusion d'eux-mêmes. Nul ne peut dire ce que sera cette joie qu'engendrera une telle vision, qui sera comme une fusion spirituelle de notre âme, de notre intelligence avec l'essence divine, une union transformante ininterrompue. une communion intime et parfaite que rien, rien ne pourra plus diminuer. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie, et quelle joie, quelle joie. Non seulement l'espérance nous aide à porter les douleurs de cette vie par la contemplation du ciel, mais encore, surtout et plus encore, la grande vertu de charité. Saint Augustin, dans une de ses petites phrases si bien ciselées, nous dit ceci. Quand on aime, on ne sent pas la peine. Ou bien, si on la sent, on aime cette peine. En latin, c'est encore plus beau. Si amatur non laboratur, et si laboratur ipse labor amatur. Idée présente chez saint Jérôme déjà également. Rien, dit-il, n'est dur pour ceux qui aiment dans l'amour, aucun travail n'est difficile. La puissance de cet amour nous est montrée par la tendresse innée des parents pour leurs enfants. Que ne fait pas une mère tendre et attentive pour son nouveau-né? Que de fatigue, que de veille, que de soins. La providence de Dieu a voulu que les enfants reçoivent de leur père les soins les plus vigilants en mettant en eux un ardent amour pour leur descendance. De la même façon, cette même providence fait naître dans les cœurs un puissant amour qui excite les âmes qui sont en état de grâce à accomplir généreusement toute la loi de Dieu, qui incline le cœur à la pratique de la pénitence et de la mortification. C'est l'exemple de ce jeune homme qui avait été pris par les Allemands, qui avait fini en camp de concentration. Et à l'occasion de cette captivité, à l'occasion de cet enfermement, il avait fait la connaissance d'un prêtre. Et cette rencontre l'avait converti, il s'était confessé, revenu à Dieu. Et malgré les privations, malgré le froid, il avait ajouté d'autres pénitences pour réparer ses péchés, pour l'amour de Dieu. Voilà ce que fait la charité dans une âme. Mais comme ceux qui vivent sans Dieu n'ont pas la moindre idée de la puissance de la charité, rien de surprenant qu'ils pensent que la loi de Dieu soit difficile et même impossible à accomplir, puisqu'ils ne connaissent ni les secours, ni les consolations de cette si belle et si grande vertu. Avant de conclure, il convient de se prémunir ici d'une des tactiques favorites du diable pour nous décourager, nous faire tomber et nous arracher au cœur la belle vertu de charité, ou au moins nous dévier de la volonté de Dieu. Il y a à ce sujet, au Livre des Nombres, un passage des plus intéressants. Balak, roi des Moabites, avait appelé de Mésopotamie le devin Balaam pour faire des imprécations contre les Israélites. Celui-ci ayant gravi le sommet d'une montagne et voyant Israël répandu dans les vallées aux alentours, loin de les maudire, poussé par Dieu, par une force surnaturelle, au contraire, combla Israël de bénédictions. Balak en fut indigné et le conduisit en un autre lieu, d'où sa vue ne pouvait embrasser qu'une partie du peuple israélite. Il espérait que le devin, en changeant d'avis, maudirait enfin le peuple juif. Balaam lui répondit, « Roi insensé, que prétends-tu? Qu'importe que le devin voie ou non tout le peuple, si ce peuple est le même qu'avant. » Le diable essaye de faire la même chose avec nous, de pervertir notre jugement en ne présentant jamais, jamais, toutes les phases de l'objet, sans quoi nous pourrions nous prononcer en toute connaissance de cause. Il place au contraire sous nos yeux la partie qui peut nous tromper, et il la peint des couleurs qui lui sont propres, à lui le diable. qu'il s'agisse de se réconcilier avec un ennemi, il ne nous parlera jamais du bel exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pardonné de tout son cœur à ses bourreaux, du prix du pardon, de la paix que le pardon met dans le cœur. Qu'il s'agisse de couper avec une occasion de péché, nous ne l'entendrons jamais nous dire que tout devient facile à qui sait prier et qu'il suffit de commencer par le premier effort, le reste suivra tout seul. Non, il ne le dira jamais. Qu'il s'agisse de vaincre notre orgueil, qui refuse l'humilité, qui refuse une humiliation peut-être. Le diable, cet esprit bouffi d'orgueil, ne nous montrera pas combien on s'allège, on se libère. On entre dans la paix en s'humiliant, en reconnaissant que nous avons eu tort, en demandant pardon. Non, le diable ne nous dira jamais tout cela. C'est pourquoi il nous faut prier Dieu, Notre-Dame, tous les saints, pour qu'il mette sous nos yeux, en ces temps de plus en plus difficiles, ce que sont les joies du monde, des joies qui passent et qui n'amènent que le trouble et l'amertume. Qu'il nous montre surtout la gloire de Dieu, ce qu'est le ciel, et plus encore combien Dieu nous aime, ce qu'il a fait pour nous, surtout en mourant pour nous sur la croix, pour l'amour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.